Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne au micro de Radio Campus 106,6 FM, campusilly.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Comme chaque mercredi 16h-18h, c'est l'heure du magazine Quoi de Neuf. Pour l'heure, on va donc parler art, culture et sciences à l'Université de Lille, avec Virginie Cauget, qui est donc chargée de mission art et sciences à l'Université de Lille. Nous parlerons également d'un spectacle radiophonique qui est enregistré dans des conditions du direct et que nous allons vous rediffuser aujourd'hui. Il a été déjà présenté le 24, début mars sur Radio Campus. Et l'expérience, l'épreuve s'est déroulée le 24 février. Et à chaque fois, on retrouve des personnes un peu différentes dans ces différents épisodes. Voilà, donc ça s'est passé à l'espace culture de l'Université de Lille, à la Cité scientifique. On va retrouver donc Virginie Cauget. Bonjour Virginie.
Bonjour René, bonjour à tous.
Heureux et toutes. Alors je sais pas, on se tutoie ou on se voit?
Oui, on se tutoie.
Ouais, on se connaît quand même beaucoup.
Ben voilà.
Donc c'est vrai que ta mission, on va dire, est assez particulière. Est-ce que c'est une nouvelle mission ou c'est la suite d'une mission précédente?
Non, c'est une nouvelle mission, mais en effet, j'aime beaucoup la vulgarisation avant tout. Et j'ai découvert que l'art permettait de vulgariser la science grâce au Cabaret des Sciences, qui était fait avec une compagnie qui s'appelle Tartuffe Pythagore, bon, qui est plus une association maintenant, et c'était vraiment une chouette expérience. Et donc cette mission-là, je l'assure depuis décembre à peu près. Elle m'a été proposée justement parce que bon, je gravite dans cet univers de vulgarisation, et donc c'est comme ça qu'on me l'a proposée en fait, je pense.
Alors, c'est vrai que l'Université de Lille, depuis longtemps, présente un volet culturel important, j'allais dire assez rare pour des universités, enfin précurseur en tout cas.
Exactement, oui.
Et que donc, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de domaines qui sont visités. Bien sûr, la relation entre l'art et la science, avec notamment des expérimentations qui sont faites en labo pour amener aux artistes des solutions technologiques parfois.
Oui, mais pas seulement en fait. Hein. En effet, la programmation culturelle de l'Université de Lille s'articule forcément autour de ce qui est académique en fait. Hein. Donc, alors ça peut être par exemple AirLab, le programme AirLab, où plutôt des artistes plasticiens sont en résidence dans un laboratoire. Et donc, en effet, l'artiste peut se nourrir d'innovations techniques, mais c'est vraiment un dialogue entre les deux, puisque c'est aussi un moyen pour les chercheurs de parler de ce qu'ils font, de pourquoi, comment et quels sont les tenants et les aboutissants, sont tout ça en fait. C'est vraiment un dialogue.
Voilà, donc l'idée c'est de mieux faire connaître les sciences en facilitant l'accès au grand public.
Oui, c'est ça, exactement, oui. Et alors, il n'y a pas que l'art plastique, hein, il y a d'autres formats scène et science. Hein, et donc, il y a plusieurs compagnies qui sont invitées à... Donc, sur le long terme, en fait, hein, ce dialogue au long cours, s'effectue. Donc, par exemple, je peux donner dans le programme de la direction culture, à la fin, il y a une page qui est dédiée à la description donc, des différentes compagnies en résidence. Donc là, pour cette année-ci, qu'est-ce que l'on peut indiquer? La compagnie Zone, qui est donc en résidence avec des politistes. On peut indiquer également L'Envol, qui est donc en relation avec des chercheurs qui travaillent sur l'Alzheimer, et aussi avec des psychologues, avec la faculté de psychologie. Ce qui a aussi d'intéressant parfois, c'est d'inclure des étudiants. Donc non seulement les enseignants-chercheurs, les chercheurs, et aussi donc les étudiants au programme de liens art et sciences, en fait, voilà. Mmh. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore citer? Ah oui, alors celui-ci, l'affaire Marguerite, par exemple, avec la compagnie L'Olium, qui a travaillé avec des juristes. Hein. Voilà, donc c'est... Et puis, dernièrement aussi, j'ai une amie qui... moi, j'y étais pas, mais Lettre à soi avec la compagnie Zaoum, que je connaissais par ailleurs, et qui travaillait avec le CERAPS. Hein, voilà.
Alors, c'est vrai que l'Université de Lille est très large maintenant, en réintégrant les trois anciennes universités dans une seule. Il y a forcément un potentiel énorme, et avec des spécificités selon les pôles, on va dire, qui permettent de réaliser des opérations culturelles différentes, de nature différente, avec des spécialistes parfois très pointus.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, en même temps, ça permet de faire découvrir, quoi, de se découvrir les uns les autres, en fait, les différentes disciplines, à travers ces spectacles, ces conférences, ces expositions aussi. On se découvre les uns les autres. Là, par exemple, à l'heure actuelle, à l'Espace Culture, en ce moment, il y a une exposition, alors qui n'a pas été faite, avec une résistance faite à Lille, mais avec l'Université de Nantes, si je me souviens bien. Donc, une compagnie de théâtre est restée en résidence dans un laboratoire de mathématiques. Et ils ont fait un spectacle qui s'appelle « L'imprécis du vocabulaire en mathématiques ». Et donc, c'était assez... intéressant de voir qu'il y avait en effet des mots non précis, comme par exemple beau ou dégueulasse, par exemple, pour des démonstrations mathématiques. Et cette exposition permet de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a à travers ces mots. Donc, c'est des dialogues de mathématiciens entre eux. Hein. Mm-hmm. C'est ce qu'observait la compagnie de théâtre. Et donc, ils ont essayé de décortiquer ce qu'il y avait derrière ces mots un peu bizarres. Impromptu dans un laboratoire de mathématiques qui est très précis généralement. Et puis derrière, donc ces mathématiques, les comprendre, en fait, ce qui se joue en fait, dans leur recherche mathématique. Voilà.
Donc évidemment, les personnels, on va dire, les enseignants et les étudiants aussi, hein, sont plutôt spécialisés dans leurs études. Et le fait de pouvoir accéder à d'autres univers, ça ne peut être qu'intéressant pour leur curiosité intellectuelle.
Oui, oui, tout à fait. C'est aussi ce qu'on fait avec les ateliers de pratique artistique. Et notamment, je participe à l'animation d'un atelier qui s'appelle Science au micro et qui vise à réaliser une émission de radio qui s'appelle L'Empirite contre-attaque. Et donc là, on invite un chercheur pour qu'il puisse parler de sa recherche, de son parcours et puis éventuellement de passion. Et donc, les étudiants s'intéressent aux problématiques et écrivent une chronique qui peut être donc traitée de façon très, comment dire, académique, je dirais, oui. Peut-être, hein, rigoureuse, mais qui peut aussi explorer parfois l'humour ou la poésie. On ne met aucune limite, en fait. Voilà, ouais.
Donc, on va dire ce feuilleton radiophonique, ce magazine radiophonique, il existe depuis combien de temps maintenant ?
Je crois depuis plusieurs années, je dirais 5 ans, facile.
Et à chaque fois, un autre thème, comment ça se fait la programmation ?
La programmation, elle vient de l'envie des étudiants. Alors, il n'y a pas que des étudiants, hein, y a aussi des personnels qui peuvent y participer, hein, notamment Serge Reliant. Et... donc, on choisit une thématique. Du coup, on cherche après quelqu'un qui pourra intervenir par rapport à ces thématiques, un enseignant-chercheur ou un chercheur qui pourrait être l'invité. Et puis, elle se construit autour de cet invité. Mais on ne se restreint pas non plus. Si on a des propositions à faire de chroniques qui ne sont pas dans le thème, on peut les proposer quand même, je pense, parce qu'on peut toujours rebondir à un moment ou à un autre par rapport à une question. Une chronique, c'est aussi peut-être une question ou interpeller.
Tu parlais de Serge Reliant parce que c'est un homme de théâtre et qu'il a aussi été directeur de la culture à l'université.
Et il continue les projets Arts Sciences à suivre et à promouvoir ces projets. Oui.
Voilà, donc à chaque fois que vous avez une autre problématique, ça enrichit votre catalogue. On peut retrouver tous les épisodes quelque part ?
Pas encore. Donc ça, c'est sur ma to-do list. j'aimerais les mettre sur Pod, peut-être sur d'autres plateformes. Ce que j'aime bien sur Radio Campus, justement, c'est qu'il y a un côté éphémère dans le sens où on peut les écouter 8 semaines et on peut aussi les télécharger. Donc, on peut se faire son propre catalogue. Et il y a une sorte d'effacement que j'apprécie un peu. La communication orale, en fait, voilà, ça, c'est un moment et ça évolue, quoi, quelque part.
Bon, c'est pas le droit à l'oubli.
Non, pas du tout. Et donc, il y a des émissions que j'aimerais beaucoup mettre sur Pod pour garder, avoir une certaine pérennité. Hein. Et là encore, sur Pod, c'est garder 5 ans et ça peut rester si on le souhaite. Donc, on a un avertissement. Est-ce qu'on veut le maintenir ou pas ? Est-ce que c'est encore d'actualité ou pas ? Et on peut mettre d'autres choses, d'autres liens. Donc, oui, j'espère pouvoir rassembler un catalogue d'émissions. Et alors, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'empirique contre-attaque, l'empirique, c'est ce qu'on acquiert avec l'expérience. Et en fait, c'est aussi une émission qui se veut être parfois expérimentale, j'aimerais. Et Bertrand Lefebvre, en fait, voulait qu'on explore les récits. Et ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté donc, pour l'émission de janvier, en essayant de faire un récit autour de la mer, parce qu'il aimait beaucoup la mer. On avait ce projet et on l'a fait. Et on n'exclut pas de le refaire.
Donc, cette émission enregistrée, elle est en public ?
Oui, alors parfois, pas toujours. Au départ, c'est vrai que cette émission, c'était parce qu'on avait le Cabaret des Sciences, qui était un format d'une heure, difficile à mettre en place, parce que nécessitant un metteur en scène, lumière, son, quoi, voilà. Et donc, on a eu l'idée de faire un spectacle radiophonique, hein, donc ce qui a été fait là, le 24 février et diffusé le 24 mars. Le spectacle radiophonique, c'était facile à mettre en place. Et c'est Serge qui a eu l'idée de faire une émission mensuelle. Donc voilà, ça a permis de plus d'occasions de s'exprimer au micro. Et alors le spectacle radiophonique, le fait d'avoir un public, il faut qu'on se le réapproprie, en fait, en le sens où essayer de trouver des jeux avec le public peut-être, ou peut-être en amont interpeller le public pour qu'il participe. Ce serait intéressant, oui.
Donc, un spectacle par mois, c'est quand même du travail et une vraie préparation.
Alors, ce n'est pas la version spectacle par mois. Je dirais qu'il y a deux spectacles par an qui sont diffusés. Donc là, vous aurez la chance d'écouter un de ces spectacles enregistrés en public, ce qui amène... Là, on l'a fait avec beaucoup de public, un brouhaha, un public qui n'était pas forcément préparé à écouter l'émission. Donc voilà, c'était une expérience.
Voilà, donc l'épisode qu'on va écouter dure une heure. Hein, donc il y a de la matière, il y a du contenu, il y a un vrai travail aussi de recherche pour les étudiants notamment qui ont préparé leur sujet.
Oui.
Il y avait un thème particulier.
Oui, alors on avait choisi de parler de l'IA parce que vraiment c'est un sujet très dont on parle beaucoup. Et on a eu la chance donc de préparer l'émission et puis d'avoir pour invité Pierre Boulet, qui est vice-président en charge du numérique à l'Université de Lille. Donc on avait plein d'interrogations, c'est un sujet hyper vaste, on n'a pas pu tout aborder forcément. Mais voilà, c'est une première approche. Alors c'est un sujet qui continue. À l'Université Lille, hein, ils ont présenté avec Jean-François Baudoir en charge de l'innovation pédagogique lundi. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à ce webinaire parce que j'avais d'autres impératifs, mais je n'exclus pas de visualiser et puis de refaire une émission à ce sujet.
On a donc, dans le sujet qu'on va entendre là, il y a aussi tout un passage, une réflexion sur les limites qu'on peut laisser à l'IA, et notamment en termes de responsabilité, de droit d'auteur, enfin, toutes ces questions sont abordées.
Oui, oui. Alors, je voulais interviewer Alessia. Malheureusement, j'ai eu un problème d'enregistrement. Pourquoi Alessia ? Parce qu'elle a une licence de psychologie et elle est en licence d'art. Et donc, parmi ses interrogations, c'est, pour elle, en art, en effet, l'IA, ça peut prendre la place des artistes. Et en même temps, les artistes, l'IA peut apporter, ils peuvent s'approprier l'IA. Donc, ça fait partie de ses interrogations. Et donc, ce qui est amusant, c'est que quand je lui ai posé les questions elle est en psychologie, c'est une science, et maintenant, elle est en art, est-ce qu'il y avait une œuvre d'art qui faisait le lien entre les deux ? Alors, elle m'a expliqué, en fait, que... j'ai oublié le nom. Un artiste, elle avait été voir une exposition d'un photographe, en fait. Et c'est ce photographe, en fait, qui lui a permis de faire la transition en licence d'art, en fait. C'était des roses, des natures mortes. Et en fait, en comprenant la démarche de l'artiste, elle a été curieuse, je pense, de comprendre... en expérimentant elle-même, en licence d'art, quelle peut être la démarche de recherche d'un artiste.
Voilà, donc ça c'est pour la vision de l'artiste. Pour ce qui concerne la vision de l'université, l'IA, ça peut être un problème si on vole tous les secrets de l'université et qu'on les revend au travers d'une IA commerciale, on va dire. Et puis l'université pense aussi à comment utiliser ses propres ressources en interne, donc créer une sorte d'intelligence artificielle interne. Et quand on dit intelligence, il faut s'entendre sur le mot. Au début, intelligence, ça voulait plutôt dire renseignement. Donc comment fournir du renseignement, de la donnée artificielle. Comme maintenant, comme nous, on entend l'intelligence au sens pur, quoi.
Oui. Alors, je n'ai pas vu cet aspect-là. Oui, renseignement, c'est ça?
En fait, c'est comme la CIA, Intelligence.
Oui.
C'était ça au départ, c'est américain, forcément.
Ouais.
Donc, il y avait cette idée de renseignement plus que
d'accord.
l'idée d'intelligence.
Oui,
nous, on
oui,
l'a traduit par intelligence, mais voilà.
Oui. Tout à fait, oui, d'accord. Oui, l'intelligence, oui, c'est... D'ailleurs, c'est aussi... Habiter le monde en bonne intelligence, c'est aussi en harmonie, quoi. Ça, c'est un autre aspect qu'on pourrait... C'est encore un mot polysémique. Hein.
Oui, en même temps, on pourrait se dire qu'on va commencer à vivre dans le meilleur des mondes. En harmonie.
Oui. le meilleur des mondes. Oui, ça interroge beaucoup. Pour moi, c'était important, justement. Ce qui m'a fait me poser la question de l'IA, c'est par rapport aux enjeux environnementaux. Pour moi, ça, c'est ma focale, en fait, toujours, en ce moment. Et donc, l'IA générative nécessite beaucoup de ressources, provoque aussi des problèmes éthiques hein, qu'on a abordés. Et donc, dans le monde académique, en effet, on doit un peu se... Comment dire ? Se méfier, je pense, et bah, sans être s'exclure, utiliser en fait l'IA dans avec un bon usage, sans non plus.
Quand tu dis l'IA, ça peut être aussi les data. Hein. On peut limiter notre consommation de data en étant plus sobre.
Oui.
Ça, c'est un ensemble, en fait. Donc, c'est vrai qu'ici, on a une grande société, hein, à Roubaix, au départ, hein, qui crée des banques de données, etc., des espaces, des data centers, et qui a une certaine forme, déjà depuis 5 ans, hein, de travailler sur une immersion de ces data centers pour limiter l'échauffement. Et puis, et puis cette eau chaude, elle peut être recyclée, récupérée dans des circuits d'immeubles, par exemple, hein, pour chauffer des immeubles ou autres. Mmh. Et là, il va y avoir aussi tout un enjeu autour de Dunkerque, puisque Dunkerque, c'est une grosse base industrielle qui se développe encore, et que donc l'IA va s'alimenter aussi de l'énergie fournie par les centrales atomiques qui sont autour. Hein. Donc il faut fournir de l'énergie en quantité, et donc à la fois l'eau de la mer et l'énergie de la centrale de Gravelines, avec la nouvelle centrale supercentrale qui va être créée pratiquement pour l'IA et pour une entreprise qui va s'installer dans le coin.
Oui, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention. Personnellement, ça me pose problème quand on entend qu'on va construire une centrale pour des data centers. Il y a ce genre de problématique-là. Ça me pose question quand on dit qu'on va utiliser de l'eau pour rafraîchir un data center, de l'eau douce, alors que l'eau douce, il n'y en a que 2%. Faut vraiment faire attention.
L'eau de mer aussi, hein, Dunkerque.
Faut voir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'eau saumâtre est pas trop corrosive et donc du coup, ça nécessite des quoi? Voilà, il y a pas mal de problématiques. On n'a pas la réponse à tout. Il faut vraiment se poser des questions, interpeller pour obtenir des réponses à nos questions, quoi.
Alors, c'est vrai aussi que quand il y a un grand chantier quelque part, il y a les habitants, enfin la population, qui est interrogée. Par l'État, hein, pour savoir, il y a des cahiers des charges, il y a une réflexion qui est longue parfois. Hein. J'ai assisté à ça il n'y a pas longtemps avec les horaires de l'aéroport de l'Équin là, qui pourraient être modifiés. Donc ça peut prendre 5 ans, voire plus, en termes de préparation, de validation, et puis la demande aussi à ses habitants de leur avis, qui est quand même une base intéressante.
Oui, ça c'est un enjeu politique, prendre en compte la parole des citoyens, oui, c'est déterminant, et en même temps, il faut bien s'écouter, quoi. Il y a les citoyens qui doivent être déjà informés correctement, s'il y a un enjeu là-dessus, et ils doivent s'exprimer, en effet. Après, il y a des arbitrages entre différents citoyens, peut-être, oui, entreprises et autres. Oui, ça... Alors, est-ce que l'art, justement, et la science peuvent s'intégrer là, à ce niveau-là, je pense, parfois, pour en venir, en fait, aussi aux spectacles vivants qui, parfois, dénoncent en,
oui, bien sûr,
en utilisant donc, l'émotion, certes, mais aussi qui permet le développement de questionnement, en fait, des citoyens, voilà, et...
Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de curiosité intellectuelle. Ben là aussi, s'il n'y a pas de curiosité, il n'y aura pas de demande, il n'y aura pas de garde-fou.
Oui, éviter la curiosité. Ouais.
Amener de la curiosité, oui, pour questionner justement. Si les gens n'ont pas cet appétit de curiosité, ben, ils ne poseront jamais les bonnes questions. Déjà là, ce n'est pas facile de savoir quelles bonnes questions on peut poser.
Est-ce qu'on peut poser toutes les questions, ouais.
Voilà, donc on va écouter Virginie Cogez, ce document fiction vivant, dynamique et radiophonique. Donc le titre global de la série, c'est
L'Empire contre-attaque.
Et là, est-ce qu'on a un épisode avec un sous-titre ou pas?
Bah, c'est questionner l'IA, en fait. Alors, ce n'est pas tellement récit, pour l'instant, fictionnel. Hein. Cette émission-là, elle est assez conventionnelle, je dirais.
Elle est assez documentaire.
Oui, ouais, d'interview et puis avec des chroniques. Et, oui.
Voilà, bah, on va écouter ça. Merci beaucoup, Virginie Cogez.
Merci, René. Merci à tous.